Bonjour, je suis Charlotte Champagne. Bienvenue dans un univers peuplé de curiosités, d'aventures et de partage de savoir. Vous êtes le genre de personne à avoir mille et une réflexions en même temps, à aimer les paradoxes, l'intrigue, parce que les histoires et les anecdotes, c'est la vie. L'idée ici est de raconter par épisode une story personnelle qui m'a interpellée et qui a pu vous arriver, et de l'analyser sous l'angle de la philosophie. Alors pourquoi la philo ? Parce qu'au-delà de son apparence farfelue et distante, la philo se retrouve partout dans notre quotidien. Mais surtout, elle est pleine de logique et de rebondissement. Alors mon ambition ici n'est autre que la transmission. Ne pas jeter les idées du passé qui nous semblent démodées, mais adopter un regard autre sur ce qui nous arrive, aussi ancien soit-il, qu'importe l'époque ou l'origine du philosophe. Alors si on essayait de détricoter nos péripéties sous l'angle de leur chef-d'œuvre.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Philo Groove. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui diffère quelque peu des autres épisodes, dans le sens où, au lieu de parler d'un événement particulier, on va plutôt s'attarder sur une tendance, une manière d'être, un état d'esprit. Alors il s'agit d'un désir profond qui surgit parfois en nous, qui est celui de créer en fait des vagues, d'affirmer notre contrariété face au reste du monde et de le créer sur tous les toits. Alors on a un feu de révolte qui nous anime et qui nous pousse à aller, comme on dit, à contre-courant. C'est comme si on essayait d'aller contre vents et marées, alors qu'on pourrait tout simplement se laisser guider par le cours d'eau. Alors je ne parle pas ici d'affirmer son opinion ou son point de vue lorsque nous ne sommes pas d'accord avec un agissement ou avec une idée ou une valeur encore, mais plutôt de cette volonté de s'opposer par principe. Parfois on ne sait même pas pourquoi on s'oppose, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le trouble d'opposabilité ou le trouble d'opposition. Alors, afin de garder plus ou moins la même durée d'épisode pour les podcasts, je vous propose de scinder ce thème-ci en deux volets. Puis ça vous permettra aussi de respirer un peu et de cogiter à tout ça. Alors, pour réfléchir à ce thème, retournons quelques années en arrière. Si on remonte à ma petite enfance, je peux dire en toute humilité avoir été en enfant sage. Je parlais pas beaucoup, j'étais très douce, très gentille. Mais à partir de mon adolescence, on va dire que je me suis bien rattrapée. J'ai commencé à m'opposer envers et contre tous. Enfin, quand je dis contre tous, surtout envers mes parents, on va dire, et leur ligne de conduite. Ils me disaient de faire A, et je faisais B, automatiquement. Mais au-delà de ça, certaines de leurs paroles, parfois anodines, pouvaient me mettre dans un état mais d'énervement absolument démesuré, et me faire réagir violemment d'ailleurs à leurs propos. Alors, à partir d'un moment donné, cette opposition envers mes parents s'est quelque peu estompée, mais aujourd'hui encore, je peux me surprendre à m'opposer par principe envers certaines personnes, alors que fondamentalement, je ne suis pas vraiment opposée à ce que la personne dit. Mais alors, d'où est-ce que ça nous vient ? Serait-ce une opposition pour défier quelqu'un par principe ? Est-ce un manque de contrôle ou de sang-froid causant le rejet ? Et puis, quel bénéfice en tirons-nous finalement ? Si bénéfice il y a, bien sûr. Avant toute chose, sans être exhaustive bien sûr à ce sujet, je pense qu'il est primordial de mentionner le fait qu'au-delà de l'aspect philosophique, il existe des causes, des troubles génétiques ou encore des causes environnementales aux troubles de l'opposition, qu'on n'analysera pas ici. Donc revenons-en à notre quête philosophique. Au fur et à mesure de mes recherches par rapport à des cas particuliers, j'ai souvent pu constater le même genre de schéma qui se dessinait. Premièrement, un comportement qui nous énerve chez quelqu'un, de manière générale. Ensuite, une discussion lambda, beaucoup d'émotions cachées, et une opposition qui vient très très rapidement lors de l'échange. Donc en d'autres termes, on coupe court à la discussion, sans vraiment laisser la place au débat. Alors est-ce qu'il y aurait, dans ces mêmes scénarios, un événement déclencheur commun ? Ou justement, si le sujet face auquel nous nous opposons n'avait pas d'importance et qu'il s'agissait plus d'une question de principe, est-ce que la question ne serait pas plutôt de savoir contre qui nous nous opposons, plutôt que de savoir le sujet face auquel nous nous opposons ? Il me semble que c'est déjà un élément de réponse. Alors, la coupe est pleine, on a un trop-plein, et le baromètre intérieur nous fait un rejet général face à une personne en particulier. Alors, au-delà de ce rejet de principe envers une personne, ce rejet peut effectivement aussi avoir lieu contre un symbole, un groupement, une société en général, etc. Mais si lorsque la coupe est pleine, le rejet a lieu de manière automatique, la solution ne serait-elle pas tout simplement d'arriver à comprendre notre baromètre intérieur afin de ne pas atteindre cette limite ? Donc communiquer avec ces personnes, ces groupements, la société même, afin de mettre les choses plus souvent à plat, afin d'éviter justement ce trop-plein. En continuant ma recherche et en questionnant des personnes à ce sujet, j'ai souvent pu entendre une réponse comme immergée. Leur trouble d'opposition serait une sorte de jeu, une manière de se prouver que nous pouvons retourner la situation, car nous avons un pouvoir d'influence. Mais est-ce que cette joute oratoire peut se résumer à une sorte de surenchère entre marchands? Personnellement, je ne pense pas. Si on commence à aller voir du côté des définitions, aller à contre-courant, c'est aller dans le sens inverse du courant principal, ou encore à l'opposé de la tendance générale. Mais finalement, c'est quoi la tendance générale? Et qu'est-ce qui nous énerve tellement chez elle? Dans son sens usuel, une tendance, c'est une force qui oriente vers certaines fins l'activité d'un organisme ou d'une personne. Mais qu'en est-il du côté de nos amis les philosophes? Alors, chez certains philosophes, la tendance désigne un caractère fondamental chez les êtres, autrement dit leur énergie vitale. Chez Spinoza, cette énergie vitale s'appelle le conatus. Et ce conatus se caractérise par l'effort et la volonté qui, quand on réussit à connaître ce qui nous détermine, nous procure en fait de la joie. Et en faisant ça, on va augmenter notre puissance d'être. En d'autres termes, c'est l'effort de l'être afin de persévérer dans son être. Mais pourquoi diable voudrions-nous contrer cette tendance ou ce conatus? Alors chez Schopenhauer, on appellera plutôt cette tendance le vouloir vivre. Il s'agit d'une tension fondamentale qui nous entraîne de désir en désir, sans que nous puissions vraiment l'arrêter. Nous ne sommes pas maîtres de la volonté. C'est elle qui agit en nous, elle qui motive inconsciemment nos représentations et elle qui détermine nos désirs. Mais ici également, pourquoi diable voudrions-nous contrer notre vouloir vivre? Que ce soit d'ailleurs le nôtre ou celui d'autrui. Il me semble que le fait de contrer cette tendance est la preuve que nous voulons tester nos limites, ou celles des autres d'ailleurs, pour contrer ce pourquoi nous vivons. Nous titillons notre instinct de vie, ou notre flamme intérieure, car il me semble que le fait de se laisser aller à cette tendance nous ferait perdre le contrôle. Donc ce trouble d'opposition nous ferait flâner quelque part avec ce qui nous serait prédestiné. On va également trouver un autre élément de réponse chez le philosophe Hegel, qui analyse également ce concept de contradiction maladie. Dans son ouvrage La Logique, il mentionne que « toute chose est en soi-même contradictoire ». Mais donc, ça voudrait dire que l'être humain aussi. Il nous dit que la contradiction est le moteur de la pensée et du réel, et que chaque chose devrait passer par son autre pour se réaliser. Par exemple, il nous dit « le maître et l'esclave s'impliquent l'un l'autre », dans le sens où il n'y a pas d'esclave sans maître, ni l'inverse. Plus particulièrement, selon Hegel, ceci se passerait par un mouvement dialectique, qui est celui où la synthèse serait le produit du dépassement de la thèse et de l'antithèse, dans le sens où deux contraires vont se fondre finalement en un seul terme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser du trouble d'opposition où on ferait l'avocat du diable par principe afin d'exclure une des deux thèses, le mouvement dialectique de Hegel relèverait en fait plutôt d'une métamorphose où les deux termes viendraient finalement se compléter pour ne former qu'un seul terme. Et cette distinction est primordiale. Elle est primordiale dans le sens où, si dans le premier cas, le fait de faire l'avocat du diable par le biais d'une opposition constante relèverait plutôt d'un besoin de contrôle, dans le sens où on oppose notre thèse à celle présentée car nous ne parvenons pas à laisser l'autre diriger, la théorie d'Hegel ici serait plutôt que, dans la contradiction, on oppose deux termes afin de les concilier. L'opposition, en fait, se fait pour justement éviter la contradiction dans la synthèse. Dans le premier cas, on s'oppose pour faire prévaloir un terme sur l'autre, et dans le second, les deux termes créent une nouvelle issue, incluant les deux termes de base. Mais alors quoi? Est-ce qu'on s'oppose pour gagner ou pour trouver un terrain d'entente? Mais en y réfléchissant un peu plus longuement, je me demande, est-ce qu'au final, dans les deux cas, on ne serait pas dans un besoin de complétude? D'une part, on fait l'avocat du diable pour s'assurer de ne pas laisser de place au doute, car quand on oppose une antithèse, on ratisse tous les arguments de cette dernière pour s'assurer qu'il soit bien faux et que la thèse de notre interlocuteur au départ était bien correcte. D'autre part, chez Hegel, on en vient via la thèse et l'antithèse à une sorte de yin et de yang où ces deux finissent par se compléter en synthèse. Alors, entre un pouvoir d'influence, entre le fait de titiller sa flamme intérieure, ou encore un besoin de contrôle ou de complétude, je vous laisse donc réfléchir à tous ces termes, et je vous dis donc à dans 2 semaines pour la deuxième partie de cet épisode. Merci pour votre écoute, et à dans 2 semaines.